Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. C'est donc la semaine Coluche dans Pop-op-op, au prétexte, expliquais-je hier, du 40e anniversaire de sa candidature à l'élection présidentielle de 1981. C'était la première fois dans l'histoire de la République qu'un clown, professionnel s'entend, postulait pour le poste suprême. Et c'est l'occasion pour Pop-op-op de revisiter la mémoire de ce monument de la pop culture sans attendre la journée porte ouverte, qui de toute façon resteront fermées pour cause de putain de Covid, comme il est des putains de camions. Nous évoquions hier, en compagnie de Gérard Lanvin et de Romain Bouteille, la scène qui transforma Michel Colucci en Coluche, place aujourd'hui au cinéma, qui lui valut un César et paradoxalement pour un film Ciao Pantin, aussi éloigné de la comédie que Le Gendarme à Saint-Tropez peut l'être du drame scandinave. Pour en parler avec nous, Agnès Soral, qui fut sa partenaire dans le fameux Ciao Pantin, et François-Xavier Demaison, qui eut la lourde tâche d'interpréter Coluche, le Coluche de la fameuse campagne. Quel rapport entretenait Coluche avec la fiction et le métier du cinéma avant de devenir à son tour un personnage? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses aujourd'hui. Allez, roule ma poule, pop, hop, hop, c'est parti.
France Inter. Pop, hop, hop. Antoine de Caunes.
Le gagnant est Coluche pour Ciao Pantin.
Et à mes côtés, en kimono, aujourd'hui, sans doute, espérons-le en tout cas pour évoquer Banzai, Charline Roux.
C'était pour masquer mon allergie au bouton de moustique.
Ah, c'est ça. Bonjour. Bonjour Charline, il vous va très bien ce petit kimono. Et avec nous, pour l'épisode 2 de ce pop-op-op hors série, Agnès Soral et François-Xavier Demaison. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux comédiens et je note au passage quelques différences entre vous. L'un de vous deux est une femme et a joué avec Coluche, l'autre est un homme et a joué Coluche. Vous me le confirmez ?
Absolument.
Tout à fait.
Pour l'instant, on est raccord, on est d'accord.
Tout à fait.
Ok. Agnès, vous étiez Lola, cette punk à la dérive dans Ciao Pantin. Ciao Pantin, aussi éloigné de la comédie que Le Gendarme à Saint-Tropez peut l'être du drame scandinave. C'est un film qui vous convient.
Oui, absolument. Il y a quand même de l'humour par moment, ouais, quand il est dans la station-service. Mm-hmm. D'ailleurs, humour qu'il avait rajouté lui-même en impro.
Ouais. Mais c'est pas la couleur dominante du film, on est d'accord.
Bon, il y a une grosse vanne un peu lourdingue où il dit on peut même plus faire caca. Bon, ça, on se doute que ça avait pas été dans le scénar.
Mais pour ce qui est du scénar et des dialogues originaux, Lambert, pompiste de nuit solitaire au cœur gros, Coluche et Lola, jeune punk et âme en perdition, vous, Agnès Soral, dans Ciao Pantin. Dans les échanges, ça donnait ça.
Tu bois pas ?
Il est dégueulasse ce café.
Mais avec quoi t'as fait ça ?
Mais il est dégueulasse ton café.
T'as mis tout ? Tes marteaux ? Tiens, il doit y avoir des œufs dans le frigidaire.
Et alors ?
Et alors, si t'en casses 4, ça va faire une omelette.
Non mais va te faire foutre pour qui tu me prends. Non mais je suis pas ta bonne, hein. Si tu veux te faire un œuf, t'as qu'à te le faire cuire tout seul.
Mais qu'est-ce que tu fous ici ?
Je t'emmerde.
Bon alors tire-toi. Je te dis pas ça pour te foutre à la porte, mais... pour que tu comprennes que t'as rien à faire ici, hein. Tu m'as aidé, c'est sympa. Mais moi, je peux rien pour toi, t'as bien vu, hein. J'ai pas de pognon et je picole.
Enfin, mais je t'ai rien demandé, hein.
Je sais. Mais t'es là, on sait pas ce que tu veux. Et d'abord, qu'est-ce que tu veux ?
Rien.
Alors tire-toi.
Pauvre mec.
Faire son Ciao Pantin, c'est une expression qui est entrée depuis dans le dictionnaire de la pop culture. Pourquoi nous a-t-il tant marqué et a-t-il marqué la pop culture selon vous ce film, alors qu'on avait déjà vu des comédiens de comédie passer à la tragédie, comme par exemple Bourvil avec Le Cercle Rouge? C'est une question que je vous pose à tous les deux.
Alors peut-être, d'abord il y a une lumière qui est assez nouvelle à ce moment-là. Bruno Nuitten nous fait... Une image un peu plus différente de donc ça il y a ça il y a Tronner qui est le celui qui a fait les décors et d'ailleurs cette scène de petit déjeuner puisque qui se passe dans la cuisine était incroyablement bien éclairée. Ouais. C'était un décor, hein, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans les studios à Boulogne. Donc, je pense qu'il y a ça, il y a la musique aussi de Charlie Couture qui est assez, c'est assez nouveau d'avoir une chanson dans un film.
Oui, mais alors Agnès, moi je pensais plus au changement de registre pour des acteurs, c'est-à-dire d'un seul coup de passer de la comédie à un film qui est presque une tragédie d'une certaine manière.
Mais c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer, hein, à mon avis. Donc on pensait que le film m'intéresserait pas forcément, mais c'était une évidence qu'il arriverait à être touchant et triste.
Je suis très troublé quand vous me parlez parce que vous portez un masque, je le dis pour les auditeurs, avec le sourire du Joker. J'ai l'impression que vous faites un grand sourire alors que... Certainement
mais
que
vous souriez. Oui, je suis très souriante. De
c'est assez flippant, on a l'impression que ça va faire un casse.
Oh, François-Xavier, oui. Votre commentaire à vous sur cet effet de Chao Pantin.
Je crois que c'est... Bon, je vais vous épargner le masque du clown, la politesse du désespoir, hein, tout ça. Mais effectivement, je crois qu'il était dans ce rôle... on avait accès à une certaine vérité, à une grande sensibilité, et qui a touché les gens, je pense... Je vais demander chaque validation
au Joker. Donc.
Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une ambition qu'on prête à tout comédien qui s'est illustré dans des comédies de faire son Chao Pantin. Ouais. Est-ce que c'est pas un lourd tribut à faire payer, voire peut-être une dévaluation de l'art comique que l'intéressé, en l'occurrence Coluche, aurait par ailleurs peut-être détesté?
Oui, c'est. Je pense qu'effectivement, c'est dévaloriser la comédie que de dire que effectivement un comédien n'est pris au sérieux que quand il fait pleurer. Mmh. Je suis d'accord avec Agnès. C'est très difficile de faire rire, de faire rire avec un minimum de goût et de fond. Moi, j'aime quand ça rigole, mais quand il y a du fond, quand il y a une sensibilité, quand on est sur le fil, voilà. Donc, je pense que effectivement. En tout cas, Coluche, moi, m'a beaucoup touché dans ce film, comme des millions de personnes qui l'ont vu, et je trouve que cette récompense du César est méritée.
Alors Agnès, pour poser la question autrement, c'est un film qui vous a touché, vous, quand vous l'avez vu
Quand je l'ai vu, c'était rigolo, c'était ce qu'on appelle l'ours, c'est-à-dire que c'était pas encore monté. Ouais. Et vraiment, le travail du montage, c'est exceptionnel, ce que ça peut être important pour un film, parce que c'était pas aussi réussi. Et puis il y a eu un moment, la personne a vraiment élagué et c'est devenu ce film-là. Mais je pensais pas qu'il, qu'il durerait à ce point-là. Je pensais que ça
deviendrait culte, tout simplement.
Oui. Et ça c'est un peu un mystère quand même, l'état de grâce.
Alors Chao Pantin, c'est un film, c'est un César et c'est un discours.
Je suis très ému. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Franchement, je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré. Hein. Quand j'ai pas dormi, parce que j'étais à côté de Gainsbourg qui arrête pas de déconner. C'est dommage que les spectateurs n'étaient pas tous à côté de Gainsbourg. Eh ben, nous y voilà. Je me croyais franchement à l'abri. Vu que je faisais du cinéma qu'on ne récompense pas et que qui fait des entrées quand même, parce que nous, on a une profession particulière, ça tient pas debout. On déconne pas, parce que l'auteur est là, on peut gueuler tout de suite. On va le coucher, tiens. Oui, non, mais c'est bon. Après, tu me le rends, après, tu déconnes pas, parce que je casse la gueule à la sortie. Qu'est-ce que je disais, vous savez pas? Je dis que des conneries, il n'y en a pas un qui a suivi. Et voilà, il y en a pas un qui suit, merci. Le cinéma français vit surtout avec les succès populaires que font les gens dans le genre Belmondo et récompense surtout ceux qui font pleurer dans le genre que je ne nommerai pas. Pour n'oublier personne, parce que quand même, il y en a un paquet. Hein. Alors, on m'avait dit pour être comédien ou comédienne, on me disait toujours partout, tout le temps, c'est pas dur, il y a qu'à coucher avec le metteur en scène. Eh bien, franchement, j'ai tout essayé, il y en a quand même qui veulent, mais... C'est pas les meilleurs, hein. Bon. Merci. Personnellement, j'avais voté pour Yves Montand en pensant que c'était Serrault qui allait l'avoir. De toute façon, je vote tous les ans pour Yves Montand, moi-même, quand il n'est pas nommé, pour faire diversion en me disant que comme c'était Serrault qui avait toutes les chances, ça pouvait tomber sur moi. Mais je trouve que vraiment... C'est rien du tout, c'est la télé, ça se casse la gueule. C'est normal. Faites attention au ministre, c'est ce qu'il y a de plus important ici. Et comme il y en a deux, elle est bien des deux côtés. Faites pas les cons. Besoin de le ministre de la Culture, donc un truc pas compliqué non plus, enfin, à entretenir, et le ministre du temps perdu à un fric fou. Qui nous a fait le bonheur. Bon. Eh bien, justement, bravo. À tous les ministres, si vous pouviez lâcher la grappe à la censure et au cinéma porno, qui, si vous voulez, de son côté, quoique pas considéré comme culturel, fait largement avancer les mœurs, dans un domaine, si vous voulez, assez secret et assez caché, mais c'est quand même du cinéma. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis aussi, si ça pouvait s'arranger pour que des jeunes qui n'ont pas de combine puissent faire du cinéma quand même, eh bien, peut-être qu'on serait tous un peu plus contents de cette profession. Si ça combine quand même un peu le cinéma. Bon, eh bien, c'est très beau. Je ne vais pas vous dire que je serai mieux la prochaine fois, puisque je n'ai pas fait exprès, mais j'essayera. Tu me le rends maintenant, ça non?
Et une cérémonie des Césars où on s'amusait bien, hein, j'ai l'impression.
Alors ouais, moi, j'étais au départ, sérieuse. J'étais à sa gauche d'ailleurs. Mm-hmm. Après, on l'a déplacé et je me suis dit, ah, il l'a.
Et vous avez été nommé deux fois.
Double nomination pour vous, meilleur espoir, meilleur comédien.
Ouais, c'est nul d'être nominé deux fois parce que ça te fait tes points qui sont dispatchés dans deux catégories.
Mais ceci dit, double impact hein, pour le film parce que succès critique et succès public parce que ça fait 4 millions d'entrées à la sortie, me semble-t-il. Vous disiez que ça s'est fait au montage, mais vous n'aviez pas du tout la sensation au moment du tournage qu'il se passait un truc avec ce film.
Si quand même parce qu'il y avait cette beauté de l'image, Paris vraiment filmé avec le métro aérien, les pigeons qui s'envolaient. On voyait bien que l'image était racontait aussi quelque chose. Et puis ce côté Harry Bork qu'il avait.
Harry Bork, alors attendez, faut resituer parce que.
On est sur France Inter. Ouais.
Immense acteur.
Bon. Immense acteur, absolument. Bon, Coluche parle de Gainsbourg hein, dans ce discours qu'on vient d'écouter, puisqu'il était assis à côté de lui pendant la cérémonie. Que Gainsbourg, à qui nous rendons également hommage aujourd'hui sur France Inter, 30 ans après sa disparition.
Ben oui, double hommage en ce studio avec cet extrait de l'émission Tam Tam. C'était sur TV6, c'est la dernière. L'invité, c'est Serge Gainsbourg, à qui on demande de réagir à la disparition de Coluche.
Alors je ne demanderai pas une minute de silence, parce qu'il n'apprécierait pas. Je demanderai une minute de hurlement. C'est possible ?
Coluche n'aurait pas apprécié une minute de silence, rien de solennel, jamais, en ce qui le concernait.
En fait, c'était un grand timide, et quand ça le mettait dans une espèce de friction intérieure, de gêne, il avait la rigolade qui sortait. Mais en réalité, c'était quelqu'un d'extrêmement fin, avec une très grande analyse. Il croquait d'ailleurs extrêmement bien les gens, je pense que son humour c'était de l'observation, et c'était rarement méchant. C'était souvent social, mais je trouve que... qu'il n'y avait pas de moquerie, de cruauté, à part sur lui-même. La plupart du temps, c'était quand même sur lui-même. Ou une situation. Bon, il était politiquement engagé, ça c'est clair. Mais je trouve qu'on a perdu cet humour sur soi. Actuellement, on se moque des autres. Et c'est un peu dommage.
Pour toi, Xavier, vous êtes d'accord?
Oui, je suis d'accord. Je trouve qu'effectivement, le rire de soi, c'est quand même la première des, je dirais, quand on vend de l'humour, il faut avoir un petit échantillon sur soi, j'ai l'impression. Il y a peu d'autodérision, c'est vrai, beaucoup de gens qui se moquent d'eux. Moi, j'ai toujours dit que dans mes spectacles, je voulais rire avec. Ouais. C'est-à-dire, plutôt que rire d'eux.
On a appris hier, grâce à Gérard Lanvin, que Coluche s'était roulé un petit joint hein, devant François Mitterrand, alors président de la République. Je pense donc qu'on peut écouter comme premier morceau de cette émission la Brigade des Stupes de Gainsbourg.
À la Brigade des Stupes, tu es tombé sur des cops. Ils ont cherché mon spliff. Ils ont trouvé mon paf. À la Brigade des Stupes, un ancien matin. Et complètement louf, toujours à moitié pas. À la Brigade des Stupes, il défixe la schnouf. J'ai les moules, je flippe, par mon genre de trip. Thank you. love.
Avec nous, on vient d'écouter du Gainsbourg, là où je rêve, non? Non?
Oui, c'était bien lui, il me semble.
Ah, ok, d'accord. Et ce que vous écoutez, vous, c'est Pop, 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 et le deuxième épisode spécial de cette semaine qui est tout autant consacrée à Coluche. Avec nous, celui qui fut dans Coluche, l'histoire d'un mec, François-Xavier de Maison, et la partenaire de jeu du vrai Coluche dans Ciao Pantin, Agnès Soral. Claude Berry parlait du talent d'acteur de Coluche. Écoutez, c'était en 91 sur le divan d'Henri Chapier.
Je peux dire qu'entre Coluche et moi, ça a quand même été une histoire d'amour. Je l'avais fait, disons, la première fois qu'il a fait du cinéma, c'est dans Le Pistonnet. J'ai tout de suite vu l'homme qu'il était. C'est vrai que j'en ai pas vu le comique. J'étais après surpris de cette grande carrière de musical qu'il a faite. Mais j'ai toujours su que Coluche avait le talent de Gabin. Je l'ai vu au premier regard dans Le Pistonnet. Donc pour moi, Ciao Pantin, au premier plan, le premier jour de tournage, quand il s'est retourné au début de Ciao Pantin, quand il se retourne dans la station à essence, que j'ai vu ce visage, j'ai tout de suite fait changer la date de sortie du film. Il était prévu de sortir en janvier. J'ai dit, il faut qu'il sorte en décembre, il va voir le César. Mais bon, c'est pas, le talent, il l'avait, et moi j'avais peut-être le talent de voir qu'il avait le talent.
J'avais peut-être le talent de voir qu'il avait du talent. Agnès Soral, François-Xavier de Maison, je voudrais vos points de vue respectifs sur Coluche, l'acteur.
Claude Berry a cherché très longtemps à pouvoir tourner avec lui. Ils avaient signé a priori, je crois, 3 ou 5 films.
Ouais.
Je me demande si c'est pas Rassam, Jean-Pierre Rassam, ouais, qui a dit il y a un livre d'Alain Page qui pourrait être bien pour ça. Mmh. On avait fait des essais. Moi, je les avais ratés. J'avais pas été prise. c'est rigolo. Je les avais fait avec Anconina. À l'époque, on faisait des essais dans des vrais décors. Enfin, ouais, c'était incroyable. Et moi, je faisais trop. Mais Claude Berry m'avait proposé ça parce que j'avais fait un moment d'égarement 9 ans plus tôt avec Jean-Pierre Marielle et Victor Lanoupa, le remake de Thomas Langman, hein, qui n'a rien à voir puisque ça n'a plus aucun. C'est juste un égarement, puisque c'était le phénomène social de la libération de la femme, il est passé à côté, visiblement. Bon. Et donc, il m'avait demandé, Claude, de copier une vraie punk. Et en fait, à l'époque, Coluche, il sortait avec une fille qui s'appelait la Grande Fred.
Ouais.
Enfin, pas que, parce que moi, je tiens la confidence. Bon, il y avait la petite Fred et la grande Fred.
D'accord.
Et en fait, elle savait pas jouer. Et on la voit à un moment donné, elle est dans la boîte où je suis, elle est DJ ou je sais pas quoi. C'est une belle femme, un peu la ambiance de ces affiches qu'on trouvait dans les luies au milieu, le fantasme du camionneur, le côté un peu musclé. Mmh. Mais c'est vrai, elle était. C'était un peu d'ailleurs, c'est elle qui l'a amené à la défonce.
Et Agnès, ça me dit pas ce que votre point de vue sur Coluche l'acteur.
Ah bon, moi je pensais même pas que j'avais besoin de donner un point de vue sur l'acteur.
Votre regard de comédienne, qu'est-ce qui vous
attirait, qu'est-ce qui vous renvoyait. Très généreux. D'abord très très bon. Pas dans tous les films. Il y a des films où moi je trouve qu'il déconne trop, même si c'est très rigolo parce qu'on se dit c'est poilant, il déconne. Autrement, je le trouvais extrêmement bon et extrêmement généreux. Il ne jouait pas contre l'autre. Il y a même un moment quand je suis dans la cage d'ascenseur, il a dit « Ah, viens, mets la caméra là. La petite, elle est bien. » Donc
vous
j'ai
avantagé,
eu ce gros plan. Donc ça, c'est plutôt assez rare.
Et vous, François-Xavier ?
Alors moi, j'étais fan, j'ai été baigné au film de Claude Berry. J'ai aimé Banzai. J'ai hurlé de rire devant Banzai. J'ai hurlé de rire devant un de mes films cultes qui s'appelle 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann, où il joue Bénur Marcel. Et c'est rien que d'y penser. J'adore ce film. Donc Inspecteur la bavure. Enfin voilà, moi je suis fan de toutes les comédies de Coluche. J'ai baigné dedans. Donc.
Mais... C'est ce qui est très étonnant, c'est qu'il le disait lui-même, Coluche, c'était un personnage que jouait Michel Colucci, et au vu de ses multiples engagements, activités, ça démontre quand même une sacrée palette de jeux, ouais. Déjà rien qu'avec le personnage de Coluche.
Exactement. Et il était différent quand on le côtoyait dans la vie. Et ça, enfin voilà, dès qu'il y avait 3-4 personnes, il faisait un peu le...
Il était en présentation.
Voilà, et du coup, il devenait un peu même grossier, ma poule, etc. Quand on était en petit comité, moi j'avais cette chance d'être amie avec lui, il était extraordinairement délicat, quelqu'un avec le choix des mots, avec de la psychologie, qui était très attentif, très bienveillant. Donc oui, quelqu'un qui a cette palette déjà dans la vie, bien sûr que si t'es avec un metteur en scène qui est bien et qu'il l'utilise, bah t'es un bon comédien, y a pas de doute.
Alors pourtant, Coluche, paradoxalement, n'était pas satisfait de sa performance. Il avait confié à son pote Gérard Lanvin, je le cite, hein, « Ces cons-là m'ont filé un César pour mon interprétation dans le film alors que j'ai strictement rien fait, on m'a juste filmé dans ma déprime. » Comment est-ce qu'il était sur le tournage, Agnès ?
Alors bon, ça c'est son humilité. Je pense que...
Oui, et puis nous on est rarement contents de nos... Enfin, je connais pas des comédiens qui vont dire...
Oh si, on en a entendu.
Ah, vous en avez entendu. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'habitude d'être toujours satisfait.
Il avait une très très grande fascination pour Lanvin. Hein. Il disait, si j'aimais les hommes, ce serait avec Lanvin. Si j'avais un choix à faire, je serais Lanvin. Mais une adoration. Mais
vous
vraiment...
avez su Gérard Lanvin. Je vous respecte, respectez-moi Antoine.
Faites bien Gérard Lanvin, dites-moi François-Xavier.
Ouais.
Ah, mais j'ignorais.
Je l'ai fait dans différents films, dans le film de Lelouch où il joue Jésus. Faut pas me parler comme ça, monsieur Ponce-Pilate. Je vous respecte, respectez-moi.
Ça marche très bien avec le masque.
La belle histoire.
Ouais. Voilà.
Et au Café de la Gare, parmi les préceptes, il y a « C'est le droit absolu de l'acteur de ne pas obéir ». Sur un plateau de tournage, l'acteur Coluche, il était docile.
Alors, il aimait pas répéter. Donc, il y avait souvent une doublure. Et dès que elle était bonne, la prise, il disait, on va pas la refaire, ou il disait, on en fait une pour chez toi. Alors, souvent, on en faisait une. À l'époque, c'était un film pour pouvoir changer de magasin, qui était le film. Ouais. Et s'il était rayé, c'était ça. Mais de temps en temps, moi, j'allais le voir et je disais, c'était pas très bien, tu devrais en faire une en plus. Et bizarrement, il m'a jamais envoyé péter. Parce que moi, j'adore ça, m'asseoir et rester sur un plateau. Il y avait des moments où je trouvais que soit je voyais qu'il faisait semblant, soit machin, et du coup, de temps en temps, il se retournait, il faisait la petite, elle aime ou pas.
Agnès Soral, François-Xavier de Maison, ce n'est pas avec les films précédents que Coluche aurait pu espérer de décrocher un César, comme il le disait encore tout à l'heure, on préférait récompenser les films qui font pleurer. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il soit capable de mettre en veilleuse sa vis comica, comme on dit, le temps d'un film ? Est-ce que ça vous a étonné tous les deux en le découvrant, ce Ciao Pantin ?
Alors déjà, il n'a pas mis sa vis comica dans sa poche. Hein. Mm-hmm. On déconnait tout le temps, c'était une bonne ambiance. En réalité, voilà.
On s'est habillé ?
Moi, j'ai découvert tout ça après, donc effectivement, j'ai aimé Coluche dans Ciao Pantin, j'ai aimé Coluche dans les comédies. Voilà, donc si vous avez compris, je suis fan.
Les comédies.
J'aime assez.
Les comédies étaient moins bien éclairées. Hein. Faut dire que dans les années 70, on pense qu'une comédie, faut balancer la lumière partout.
On voit tout.
On voit tout. Il y a pas une ombre, etc.
Faut mettre des chemises oranges courtes.
Voilà.
Quand j'ai démarré ma carrière,
on s'en fout un
comédie,
peu.
Il faut du verre pomme et de la chemise orange avec.
Et du soupule.
On s'en fout un peu de la réalisation. Enfin, il y a quelque chose comme ça aussi, hein, qui compte. Peut-être que s'il avait vécu plus longtemps, je pense qu'il aurait fait son chef-d'œuvre comique aussi, parce que il a eu une révélation, je pense pouvoir le dire, dans le jeu. Il s'est rendu compte que la sincérité, même dans l'humour, aurait pu être amené encore plus que dans Banzai, etc. Lui, il disait, je fais que copier Romain Bouteille. Hein. Il disait, c'est bizarre, moi, je fais exactement ce que dit Romain Bouteille, pourquoi il le fait pas pour lui-même?
On a beaucoup parlé de Romain Bouteille déjà, mais on va continuer à parler de Coluche acteur et de la carrière de Coluche au cinéma dans quelques instants avec vous, Agnès Soral et François-Xavier de Maison. Ne bougez pas, ce pop-up spécial Coluche continue juste après un morceau, et bien sûr un morceau de Coluche. C'est Je suis l'andouille qui fait l'imbécile. C'est choisi par vous, François-Xavier.
Merci.
avec mon air con, reconnais partout mes salopettes râpées aux genoux et mes lunettes sur mon gros nez. C'est pourtant vrai que j'ai l'air con quand je tombe par hasard devant une glace. Il m'arrive de me faire marrer. Je suis l'andouille qui fait l'imbécile, la coqueluche des durs au boulot. J'aime mieux faire marrer le prolo que faire penser dans les familles. Faire penser dans les familles. J'étais lancé comme un paquet de lessive. On dit que je m'écraserais comme un paquet de mouise. Pourtant, si la vente se maintient, je viendrai jusqu'à l'été prochain. Je suis le plus obscène de la radio, c'est juste ça qui est rigolo. Je suis l'andouille qui fait l'imbécile. Mon nom sonne comme une maladie, mais grâce à ça je traîne au lit. On me fait la vie facile. L'air qu'on me fait la vie facile. J'ai pas de message ni de méchanceté. Pourtant j'ai le grand avantage d'être détesté par la moitié des Belges, des Suisses et des Français. Mais je me fous bien de leur voix qui gronde. Je ne veux pas plaire à tout le monde. Je suis l'andouille qui a l'air imbécile. J'ai tendance à penser tout haut. Ça fait bouillir sous les chapeaux. Avoir l'air qu'on peut être utile. L'être vraiment serait plus facile.
Coluche, je suis l'andouille qui fait l'imbécile. C'est le choix de François-Xavier Demaison, venu parler avec Agnès Soral de Coluche dans cette émission. Et comme nous allons parler maintenant de Coluche, l'histoire d'un mec, c'est le moment que je choisis pour aller prendre un petit café. Moi, je vous laisse, Charline. J'ai de la monnaie. Là.
Discrètement. François-Xavier, vous avez donc incarné Coluche et revêtu l'uniforme. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes vu dans la sacro-sainte salopette ?
Bah, c'était complètement écrasant, je dirais que c'était le fruit de plusieurs mois de travail. Il y avait un sentiment de grosse responsabilité. Et puis si j'oubliais, on me le rappelait dans la rue. On me disait, faut pas que tu le loupes, notre Coluche. Donc il y avait vraiment une immense responsabilité. Donc il y a eu beaucoup de travail. Effectivement, les premières fois, ça a été bon. D'ailleurs, il y avait la bienveillance d'un réalisateur aussi derrière ça, une vraie conviction que ce serait moi, un vrai regard. Donc, je me suis senti, je dirais, accompagné, aidé, servi. Donc, je sais. Bon, il est plus là pour en parler.
Un bon réalisateur, mais bruyant. Après, le problème d'étanchéité de la bouche.
Voilà. Il y a un moment qui m'a marqué sur le tournage, qui pour moi restera un des plus grands souvenirs de ma vie.
Je suis au gymnase. En décembre, on est en décembre 2007, je crois. Il y a dans la salle 600 figurants et Antoine a voulu attendre que le dernier moment pour que je monte sur scène. Ce sont toutes les scènes de spectacle. Mm-hmm. J'ai répété en studio avec Gérard Prévost, dit La Pliure, son bassiste, avec tous ces musiciens. Il y a Ramon Pipin. Il y a aussi Alexandre Laurent Gasperis, pardon. Et tous ces musiciens avec qui j'ai travaillé les titres. Mmh. Il y a le titre, donc, Je suis un voyou, je marche dans la nuit. Et il y a Laissez-moi seul, je veux rester dans le noir. Et tous les sketchs. Et à un moment donné, il y a 600 figurants, des gens qui sont inscrits extrêmement longtemps à l'avance, qui sont des fans absolus de Coluche. On est au théâtre du gymnase où il a fait son succès. J'ai derrière moi les musiciens de Coluche. Ils lèvent le rideau. Et là, vas-y.
Le vertige.
Le vertige absolu de, je dirais que il y a le vertige, le saut dans le vide, et puis j'y vais. Et là, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé en amont que ça devient une espèce de libération comme ça. Le public est avec moi et ça se passe très très bien. Et derrière, je me retourne et je vois des musiciens en larmes qui disent, de dos au gymnase, on avait l'impression d'être derrière notre pote et ça a été un moment absolument magique pour moi. Donc, voilà.
Est-ce que ça t'a apporté des choses au niveau de ton jeu après ça?
Alors ce qui est fou, c'est que j'ai tourné cette scène en décembre 2007, soit 5 ans après exactement mon premier spectacle, au théâtre du gymnase. Donc il y avait une espèce de mise en abîme pour moi qui était assez terrible. Je crois que ça m'a apporté, je dirais pas que le talent de Coluche est contagieux, mais je dirais que il m'a apporté une certaine insolence, une certaine liberté, cette capacité qu'il avait à affronter la connerie humaine en frontal, mais tu le disais, avec délicatesse, avec beaucoup d'intelligence, une acuité sociale très forte. Voilà, aujourd'hui je dirais que c'est un idéal vers lequel doivent tendre tous les humoristes.
On a tous des souvenirs particuliers de Coluche, l'homme public, l'amuseur, le politique, le philanthrope, mais vous, François-Xavier, vous avez sacrément dû approfondir. Qu'est-ce que vous avez appris de marquant sur l'homme que vous ne saviez pas avant de l'incarner?
Alors, moi, je ne suis pas expert à Coluche, hein. Je l'ai incarné au sein d'une histoire, donc il a fallu que je me documente, que je fasse ma sauce d'acteur, comme on dit.
T'étais venu m'en parler?
Oui, je me souviens.
Ah oui, vous m'avez caché ça.
Oui, on avait d'ailleurs une brève liaison avec Agnès.
Il l'a couché pour me remercier.
Mais c'est vrai que il y a une. Moi, c'est cette intelligence qui m'a vraiment marqué. Cette intelligence, ce courage, d'être toujours du côté de ceux qui se sentent lésés par le système. Mmh. Et ça, c'est très fort. Il est la voix de ceux qui en prennent plein la gueule. Et je crois que c'est ça le rôle d'un saltimbanque, d'un humoriste.
Agnès. Mais avec espièglerie.
Oui.
C'est-à-dire, la colère n'était jamais grave. C'était comme s'il avait en même temps le côté « c'est pas forcément très grave, mm-hmm. on va s'en sortir mm-hmm. ». Je crois que ça s'explique beaucoup aussi de s'intéresser aux gens qui n'étaient pas forcément ceux qui avaient la chance. Lui, il est d'origine italienne, ouais. À un moment où le racisme était, avant que les Arabes arrivent, hein, ils s'en prennent plein après, c'était un peu difficile. Et je pense qu'il voulait absolument rendre les gens heureux, et d'abord sa maman, en fait. Ouais. Je pense qu'il avait le côté ambianceur. Mmh. Je vais faire en sorte, maman, que les choses soient plus légères.
Qu'on oublie la misère.
Exactement.
Ouais, ouais.
Donc une forme de d'enthousiasme qui a pris toute la place, parce que quand il est petit, il est pas en embonpoint comme on se l'imagine. Mmh.
S'est fabriqué une silhouette.
Protégé. Il y a un moment, les gens qui prennent du poids, c'est pour prendre se protéger, quoi. Mmh. Prendre la place, tout en n'ayant pas de peur. Il s'est mis derrière un masque aussi, pour pouvoir passer au-dessus de sa timidité.
Comme vous en ce moment, Agnès, et je répète que je suis très troublé quand vous me parlez, parce que vous avez ce masque du Joker qui me sourit.
Sur franceinter.fr.
Je tremble.
Et dans Coluche, l'histoire d'un mec, vous dévoilez aussi les faiblesses, les aspérités de l'homme à une période bien particulière, celle de la campagne électorale. En tant qu'humoriste et fan, je ne crois pas me tromper, hein, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a eu un semblant d'angoisse à l'idée d'incarner ces facettes-là du comique préféré des Français.
Bien sûr, mais c'était inévitable, puisque c'est la, sans doute la période la plus compliqué de sa vie, une période assez sombre, que derrière la lumière il y a l'ombre, etc. Donc forcément, à partir du moment où il descend de scène, de toute façon, on cesse d'être dans la représentation, ce que disait Agnès. On est, ce qui, effectivement, il fallait se rapprocher le plus possible des sketchs, donc il fallait trouver les intonations, la voix, pour rappeler ces sketchs qu'on entend toute la journée sur les radios, et donc il fallait pas que le public soit dépaysé, qu'il s'identifie. Si je faisais Coluche, effectivement, et que avec la voix de des proches, ça pouvait pas passer.
Donc, ou celle de l'Anvin non plus.
Voilà, voilà. Pas... et donc, du coup, effectivement, il fallait travailler pour être au plus proche de lui, le rappeler, mais ensuite, dès qu'il descendait, dès qu'il quittait la scène, dès qu'il se démaquillait, c'était un, voilà, c'était un père, un mari, un copain, un homme qui a des angoisses. Donc, c'est quelque chose de très quotidien, finalement. Ouais. C'était mais... ça un peu le challenge. L'enjeu, j'aime pas trop ce mot, mais
l'enjeu, ouais.
L'enjeu du film.
La mise en danger.
Je suis un winner.
Non, mais j'imagine qu'in situ sur le tournage en costume, vous avez dû être confronté à un certain moment à du public, du vrai, des passants. Quel genre d'expérience c'était, et est-ce que vous avez pu à ce moment-là jauger la popularité de l'homme?
Écoutez, je me souviens d'une scène, on tournait rue Gazan, on tournait dans la maison d'Higelin, qui était son voisin, puisque les gens qui habitent rue Gazan ne veulent plus entendre parler de Coluche. C'est quand même paradoxal quand on achète la maison de Coluche, mais bon. Et donc on tournait dans la maison d'Higelin, qui depuis est un immeuble, voilà, c'est comme ça. Et je me souviens, il y a deux petites dames qui passent dans la rue, qui habitent le quartier, et tout d'un coup j'entends, il y en a une qui dit à l'autre, mais qu'est-ce qui tourne? Ben, il tourne un film avec Coluche. Donc elle avait complètement zappé qui n'était plus là.
Et c'est un costume dont on sort facilement.
Bah écoute, en tout cas, je dirais que physiquement, il a fallu, il y a cette transformation.
Se délester, mais ça doit pas être facile.
J'ai pas tout perdu, c'est ça que vous voulez dire, Charlie?
Non, pas du tout. T'as grossi pour le rôle exprès?
Un peu, oui. Bon. Mais c'était la coquille, ouais. C'était l'aspect superficiel de la chose, mais je crois que on sort pas indemne d'une fréquentation comme ça, et c'est une bonne fréquentation.
Je reviens. Vous en avez
fini? On a dit plein de belles choses.
Non, c'est juste mon petit café, mais j'avais pas assez de monnaie, je suis désolé. Mais oui. Dites-moi, si on écoutait un petit peu de musique, non?
Ah bon, bah oui, d'accord, alors.
Bon. Alors, François-Xavier de Maison, Agnès Soral, rendons hommage aux origines italiennes de Michel Colucci avec Adriano Celentano et son morceau Svalutation.
Ah, très bien.
Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation. Io amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation. Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, svalutation, svalutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination. Quando pensi a te.
ça.
Adriano Celentano's Valutation, c'était en 76, soit l'année de l'aile ou la cuisse, et aujourd'hui dans vos oreilles. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture cette semaine de façon... À l'occasion
d'émissions
spéciales de Coluche, et nous sommes toujours en compagnie d'Agnès Soral et de François-Xavier Demaison.
Et hier, nous étions en compagnie de Gérard Lanvin, que vous imitez à la mer.
Qui est toujours là, voilà. J'adore cette émission. Charline, je vous respecte, respectez-moi.
Et Gérard Lanvin qui nous parlait hier à ce micro du jeu d'acteur de Coluche.
Bien sûr que c'est un travail d'acteur formidable, parce qu'il y a de l'observation, il a observé des gens comme ça. Moi, quand j'allais faire les courses avec lui, on observait un charcutier, et c'est comme ça qu'est né un sketch. Le mec disait, nous on n'a pas d'enfants, avec ma femme on a des chiens. C'est le mec nous a dit ça, quoi. Il y a un moment, il était dans l'observation en permanence, et donc dans l'observation aussi physique des gens.
C'est ce don d'observation qui a fait sa force, selon vous?
Bien sûr, bien sûr. Ouais. En plus, c'était quelqu'un qui était en contact avec... il n'était pas snob dans son contact. Le chemilibliblique, c'est le pompiste qui habitait, d'ailleurs, qui est le dernier à l'avoir vu, je crois, avant son accident.
Ah, okay, ouais.
Mais c'est... et en même temps, une tendresse pour cette personne. C'est-à-dire que il y avait que les anciens combattants où il avait un peu du mal, mais en même temps... en même temps, je l'ai déjà vu bien se comporter avec un ancien combattant. Où il était désespéré de voir que ça touchait cette personne de manière... son sketch qu'il avait fait était... il avait mal d'avoir fait mal à un mec qui s'était quand même battu pour des vraies raisons.
Et François-Xavier, ce don d'observation, du coup, y a un effet Vachkiri quand on est chargé à son tour de jouer le personnage.
J'ai pas du tout compris la question.
Cette référence au fromage.
C'est un sponsor.
Ça va trop loin pour moi.
Il y a assez de pubs cachées, c'est ça?
Non, il y a l'effet Vachkiri.
Dédoublement.
Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Je suis complètement déstabilisé, je sais pas. Non, mais effectivement, il y a une. Je crois qu'on prend des petites photos. Même quand on est acteur, enfin, je veux dire, je crois que ça fait partie du métier de la condition d'artiste, entre guillemets, c'est de prendre des petites photos et puis de mettre plus ou moins de temps à les développer. Voilà, on photographie le réel et puis on essaye de le transformer pour le poétiser. Voilà.
Ce que disait Gérard Lanvin, et c'était bien Gérard Lanvin qui parlait, et non pas François-Xavier Demaison en train de faire Gérard Lanvin.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que Gérard Lanvin a fait Xavier Demaison?
Non, on s'en fout complètement.
Ça
me donne des idées. Bon, mais tout ça nous fait évidemment penser à Louis de Funès qui a joué avec Coluche pour L'aile ou la cuisse de Claude Zidi.
Les poulets des œufs en forme de cubes. Les œufs cubiques sont plus faciles à mettre en boîte. Et les poulets sans plumes. On gagne du temps, on évite de la main-d'œuvre.
Alors, quand on fait la somme des comédies dans lesquelles joue Coluche, de Banzai à L'aile ou la cuisse, en passant par l'inspecteur La Bavure, par exemple, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, au final, c'est un même personnage qui se dessine, toujours dépassé par les événements, mais s'en tirant quand même à bon compte, grâce à son bon sens, un personnage plus rond, plus tendre que le personnage de scène. Comme s'il se mettait un peu en vacances le temps des films. Vous êtes d'accord avec ça?
Ou comme s'il avait compris le côté humain. Qu'est-ce qu'un humain? C'est quelqu'un qui a des tas de merde qui lui arrivent toute la journée. Il essaie de s'adapter. Il se sent dépassé par la vie. C'est ça, en fait, son côté oui. Qui nous parle.
Et puis
c'est
théâtre, quelque chose d'indémodable. C'est quelque chose on projette. Donc c'est le clown de la comédie italienne. Ça gueule, ça insulte, il y a des ruptures. Et puis là, au cinéma, c'est la caméra qui vient le chercher, qui vient plus chercher sa vérité, je pense.
Sur cette antenne, ici même, en 81, pour la sortie du film Le Maître d'école, Coluche parlait d'un projet de film. Écoutez.
Je voudrais faire un film avec des vieux, les mélanger, les mixer.
Et quoi, des documents, des interviews, ouais, une fiction?
Non, avec des westerns, avec des vieux westerns italiens, roumains et allemands, où on voit des...
Des westerns roumains.
Oui, il y a des westerns roumains.
Je connais pas bien, ma
femme. Il y a des westerns turcs aussi.
Oui, des westerns allemands.
Justement,
aussi.
C'est pas très connu et c'est vraiment très très drôle.
Et puis quoi, faire une salle,
oui, c'est ça, faire une espèce de mixage là-dedans, mélanger tout ça et faire un film drôle.
Et comment vous interviendriez là-dedans
Avec la post-synchronisation, avec le trucage, avec la musique, avec...
On vous verrait à l'image aussi, alors vous...
Non. On verrait avec les acteurs turcs.
Et il parlerait du Coluche. Il parlerait avec la voix de Coluche, c'est ça?
Par exemple, ou avec la voix d'autres comédiens aussi. Mais...
De détournement.
Un détournement, exactement, de western.
On reconnaît évidemment Pierre Bouteiller qui...
Oui, c'est drôle, hein, la différence de ton de les animateurs à cette époque, on a toujours l'impression que quand ils vous interviewaient, ils vous prenaient un peu pour un con. Vous savez, quand vous avez Chalet qui interview les starlettes, alors qu'est-ce qu'elle va, ma petite chérie, alors qu'est-ce qu'elle devient?
On a toujours
l'impression qu'ils écoutent et puis qu'ils vous voient venir comme ça, du genre, alors qu'est-ce qu'il va faire?
C'était pas le cas de Bouteiller.
Non, bien sûr, je plaisante. Je
parle.
Il était extraordinaire, Pierre Bouteiller.
Ce projet dont parlait Coluche là à l'instant, c'est un projet qui ressemble étonnamment au film Le Grand Détournement des années plus tôt, en avance. Quoi. Il était résolument en avance sur son temps, ce Coluche.
Certainement. Mais certainement. Mais en même temps, là, il est en retard. On aimerait bien qu'il revienne.
Qui dit détournement dit Michel Hazanavicius. Et Michel Hazanavicius voulait nous parler lui aussi de Coluche.
Pour moi, Coluche, c'est un héros de mon enfance. C'était un type très marrant, qui se foutait un peu de la gueule de tout le monde. À l'époque où on croyait le journal télévisé, on croyait les pubs, on croyait les profs, on croyait les flics, on croyait tout le monde, en fait, lui se foutait de la gueule de tout le monde. Il remettait tout dans une espèce de perspective très drôle et très subversive. Très, en fait, il n'y a pas de raison d'y croire. Et donc voilà, donc c'est un peu, il est, je pense, très précurseur de tout un regard très ironique sur tous les pouvoirs comme ça, ou toutes les autorités en fait qu'on nous propose. Et puis voilà, ce qui est à mon avis fort, c'est qu'à un moment donné, cette ironie, elle lui a pas suffi, puisqu'il est passé, il a été encore plus subversif, c'est-à-dire qu'il est revenu à un premier degré. Et il a fait les Restos du Cœur, et il a fait de la politique, et il a essayé. Et voilà, donc au final, pour moi, Coluche, c'est ça, c'est un type subversif, et dans une époque qui en avait bien besoin.
Une époque qui en avait bien besoin, Agnès? François-Xavier, vous êtes d'accord avec cette analyse
rapidement? Je ne trouve pas qu'on en a besoin, là. Gens qui, au lieu de détruire tout pour ricaner et moquer, qu'on se bouge un petit peu pour proposer des choses du soi-disant après-Covid. Mmh. Il me semble que, ouais, il nous manque. Ça, c'est clair.
François-Xavier?
Oui, il nous manque. Et puis, il nous manque, je dirais, il y avait cette fulgurance, cette intelligence qui revient, moi je trouve, qui c'est une respiration, l'intelligence, effectivement, et de sortir par le rire, sortir par le haut de quelque chose de qu'on subit, c'est quand même indispensable. Oui, je trouve que ça manque aujourd'hui. Et puis on est dans une espèce de aussi d'hystérie médiatique qui fait que on sort de son contexte beaucoup de choses, on hystérise beaucoup de de l'humour est un petit peu parfois stigmatisé. Donc il y avait cette liberté.
Cela dit, lui aussi, il a eu des problèmes. Il a eu des très 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 gros problèmes.
Il a fait une grosse carrière à Radio Monte Carlo. Ça a duré une journée, je crois.
Attendez, sortir par le rire, absolument, vous avez tout à fait raison, mais sortir par le rire en dansant. Et en 84, il y avait de la bonne musique. Tiens, comme par exemple celle-ci. We'll be right back. Ah bah on était bien là, tous à danser, non? Même pas essoufflé, hein? Même pas.
J'avais même pas le claquage, rien.
Avec mon petit café à la main. Baby, I'm a star. C'était Prince dans ce pop-pop spécial Coluche en compagnie d'Agnès Soral et de François-Xavier Demaison. Merci infiniment à tous les deux d'être passés dans
merci
ce studio.
Merci à tous les gens qui veulent faire de l'humour. Faites de l'humour d'abord sur vous-même. Arrêtez de vous moquer.
De l'humour drôle et de l'humour drôle si possible. Merci Agnès Soral. J'en profite pour annoncer que nous vous verrons prochainement dans la série Le Temps des Secrets sur France 2. Et merci François-Xavier Demaison, vous serez prochainement vous à l'affiche de deux films, Le Temps des Secrets, c'est ça
aussi? Oui, de Pagnol.
De Pagnol, de Christophe Baratier, et Champagne de Nicolas Vanier. Merci Charline.
Merci Antoine.
À demain.
Au revoir.
Merci à toute l'équipe de
On n'a même pas écouté du Charlie Couture.
Ah mais non, mais j'ai fait une petite compilation, vous allez repartir avec, je vous promets. Okay. Mais non, on n'a qu'une pauvre petite heure, Agnès, vous savez, on ne peut pas tout mettre.
Bon.
Et merci à toute l'équipe et à Arnaud Caillet qui était à la technique aujourd'hui. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Charline Vanhoenacker et toute sa folle équipe pour Par Jupiter.